Bonjour, mes frères. Eh bien, il y a. Nous vivons dans un monde où Dieu a établi des lois. C'est une évidence. Nous vivons dans un monde qui est régi par des lois. Réfléchissez-y. Maintenant, quand nous pensons aux lois que Dieu a créées, nous pensons souvent aux 10 commandements, par exemple, ou à toutes les lois lévitiques, les lois que nous voyons dans l'Ancien Testament. Mais Dieu a bien sûr créé des lois qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Pensez aux lois scientifiques. Nous servons un Dieu qui a l'esprit très mathématique, qui est très précis. Pensez aux horloges astronomiques que Dieu nous a données, le soleil et la lune, pour mesurer le temps. Il est très précis, et il a créé ces lois qui sont intégrées dans sa création. Pensez à la gravité. Nous la ressentons tous chaque jour. Probablement aucun d'entre nous n'y pense tous les jours, mais nous ressentons tous la gravité. C'est une loi. Il existe des lois que l'homme a découvertes au fil du temps, au cours des derniers millénaires, et qu'il a également discernées. Pensez à certaines lois de la thermodynamique, à certaines lois de l'entropie, qui stipulent que les choses se dégradent avec le temps. Il y a les lois du mouvement. Il y a tellement de lois qui régissent le fonctionnement de la création de Dieu. Je veux dire, c'est, pensez au fait que vous avez besoin du soleil. Nous savons tous que vous avez besoin du soleil, et vous avez besoin d'eau, tous, excusez-moi, et vous avez besoin d'un sol fertile pour que les plantes poussent. Où y a-t-il? Il existe peut-être une loi qui définit cela, mais il y a des lois tout autour de nous, dans toute la création, qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Des choses que nous vivons tous les jours, que nous savons qui vont se produire parce que ce sont des lois, ce ne sont pas seulement des théories, des idées ou des hypothèses, etc. Ce sont des lois réelles qui régissent la façon dont Dieu a créé le monde. Il existe donc une loi cachée que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Une loi dont on ne parle presque jamais. Vous savez, on entend beaucoup parler des lois de Dieu. Nous entendons beaucoup parler du sabbat. Le sabbat est une loi absolue que nous devons respecter. Si nous respectons le sabbat, Dieu dit que c'est un signe entre lui et son peuple. C'est donc une loi que Dieu a établie pour que nous la respections et qui nous aide à nous rapprocher de Dieu et à savoir que nous sommes son peuple. Il y a des lois sur la dîme. Il y a des lois sur les viandes pures et impures. Nous savons que Dieu a établi ces lois. Elles sont assez explicites dans la Bible. Certaines sont très claires, tu ne mentiras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne convoiteras point, etc. Nous connaissons beaucoup de ces lois, mais il en existe certaines, dont nous allons parler aujourd'hui, qui sont un peu comme la loi de la gravité. Elle n'est pas écrite dans la Bible, mais elle existe. À ma connaissance, la Bible ne parle nulle part de la gravité. Peut-être y fait-elle allusion de manière indirecte dans certains passages, mais je ne vois pas où elle parle de la gravité. Il existe une loi dont nous allons parler aujourd'hui qui se trouve dans la parole de Dieu, mais elle est cachée, et vous ne pouvez pas la connaître tant que vous ne l'avez pas découverte. Vous devez la trouver. Vous devez la déterrer et la chercher. Mais une fois que vous aurez compris ce dont je parle aujourd'hui, une fois que vous aurez vu cette loi cachée, vous saurez qu'elle est partout. Et vous ne pourrez plus y échapper. Partout où vous vous tournerez, vous y penserez et vous vous direz, oh là là, la voilà encore, cette loi cachée. Elle est aussi définitive que la loi de la dîme, mais pas aussi explicite. Elle est aussi définitive que les lois de la gravité, mais elle n'est pas écrite explicitement dans la Bible. Abordons donc ce sujet aujourd'hui avec un test. Je vais sortir un bloc-notes. J'ai mon bloc-notes pratique. Bon. Combien d'entre vous ont déjà entendu parler du test des 9 points? Certains d'entre vous peut-être, d'autres non. Le test des 9 points a été créé, je crois, dans les années 80. La question est la suivante, comment relier ces 9 points à l'aide de 4 lignes? Comment est-ce possible? Essayez d'imaginer. Essayez de le faire dans votre tête. Vous pouvez dessiner ces 9 points sur votre propre. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce test auparavant, essayez de dessiner ces 9 points sur votre feuille et voyez si vous êtes capable de tracer 4 lignes qui relient tous les points, ou tous les 9 points. Imaginez que vous venez par ici, vous descendez, vous remontez peut-être, et vous ne pouvez pas répéter les points. Descendez, vous ne pouvez pas. Oui, ce n'est pas grave. Je suis désolé. Vous pouvez le faire, mais vous devez le faire en 4 lignes. Maintenant, je vais vous donner la réponse après environ une minute de réflexion. Si vous n'avez jamais entendu parler de cela auparavant, quoi que vous fassiez, ou que vous alliez sur cette ligne, vous manquerez toujours au moins un point. C'est là que cela rejoint le sujet d'aujourd'hui. La réponse est qu'il faut tracer une ligne vers le haut, puis une ligne au-dessus, jusqu'au-delà de la boîte. Tracer une ligne vers le bas. Excusez-moi. Tracer une ligne vers le haut. Maintenant, nous avons tracé 4 lignes et attrapé les 9 points. La seule façon de résoudre ce puzzle est de sortir des paramètres supposés qui vous ont été donnés. Chaque fois que l'on nous donne ce test, on part du principe que nous devons rester dans les limites des 9 points. Or, en réalité, cela n'a jamais fait partie des règles. La règle était que vous deviez relier les 9 points avec 4 lignes. Donc, si vous tracez une ligne en diagonale, sortez complètement du cadre, descendez en diagonale entre ces 2 points, puis remontez, vous aurez relié les 9 points avec 4 lignes. Pourquoi est-ce important? Cela introduit le sujet du message d'aujourd'hui. Nous avons dû. Naturellement, nous avons supposé, nous avons fait l'hypothèse que nous ne pouvions pas sortir de ces 9 lignes. Était-ce juste? Non. La seule façon de répondre à la question, de résoudre le problème, et de supposer que vous n'êtes pas obligé, c'est de ne pas supposer, c'est de ne rien supposer. Voyez plus grand. Sortez des sentiers battus. Vous savez, cela a été utilisé comme un test pour sortir des sentiers battus. Eh bien, ouvrez votre Bible à la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Nous allons lire un verset très connu, et nous allons poser une question simple. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Nous connaissons tous cela, il est dit, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Concentrons-nous principalement sur les 3 premiers mots. Tous, excusez-moi. Examinez toutes choses. Je souffre d'allergie, alors excusez-moi si je tousse. Quel est le contraire d'examiner toutes choses? Je ne parle pas de réfuter toutes choses. Quel est le contraire d'examiner toutes choses? Si nous n'examinons pas si quelque chose est vrai, que finissons-nous par faire? Que finissons-nous par faire? Nous finissons par supposer que quelque chose est vrai. C'est le contraire de prouver quelque chose. Si nous ne prouvons pas quelque chose, nous finissons par. La seule autre option, si nous essayons de croire en quelque chose, est de supposer quelque chose. Dieu nous dit que nous ne devons rien supposer. Nous devons prouver toute chose. Prouver toute chose. Il ne s'agit pas de supposer toute chose. La définition d'une supposition est la suivante, et vous pouvez la noter. Cela vous sera très utile tout au long du message. Une supposition est une chose qui est acceptée comme vraie ou certaine sans preuve. Une chose qui est acceptée comme vraie ou certaine, mais sans preuve. Réfléchissez-y. Si nous ne prouvons pas quelque chose, que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à supposer que c'est vrai. Les suppositions ne sont en fait que des opinions que l'on peut avoir. J'ai une opinion sur quelque chose, mais cette opinion n'est étayée par aucun fait ni aucune preuve, mais vous croyez sincèrement en cette opinion. Je crois simplement que c'est vrai. Vous n'avez aucun fait pour l'étayer, le prouver ou le corroborer, mais vous le croyez néanmoins comme une vérité. Dieu, en revanche, dit que nous devons tout prouver. En effet, il nous dit de ne pas faire de suppositions dans la vie. C'est le premier point important qui commence à nous ouvrir les yeux sur cette loi cachée qui imprègne toute la parole de Dieu, à savoir que Dieu ne veut pas que nous supposions quoi que ce soit. Il veut que nous vérifions tout. Il ne veut pas que nous traversions la vie en faisant des suppositions. Nous verrons à quel point les suppositions peuvent être néfastes, et lorsque vous le verrez, vous constaterez que l'idée des suppositions est omniprésente dans la Bible, mes frères. Nous le verrons. Nous le verrons clairement, et vous constaterez peut-être que tous ces exemples dans la Bible nous aideront à voir où, dans notre vie, nous faisons des suppositions dont nous n'avions même pas conscience auparavant. Mais au moins, le but est de faire en sorte que nous, que l'idée de supposition soit régulièrement au premier plan de notre esprit, que nous ne fassions pas de suppositions dans la vie, que nous prouvions les choses. Les doctrines des églises du monde sont souvent fondées sur des suppositions. Il y a en fait une église près d'ici qui s'appelle. Elle s'appelle, et je vais vous dire pourquoi, elle s'appelle l'église de l'Assomption. C'est ironique. Quand ils utilisent le mot « Assomption », ils font référence à l'Assomption du Christ, ou certains parlent même de l'Assomption de Marie. Oh, c'est étrange, mais comme c'est ironique que leur nom soit l'Église de l'Assomption, parce que dans les églises du monde, c'est ce qui se passe, nous grandissons. Ce qui se passe, c'est. Comment avons-nous tous grandi? Quand on nous a enseigné la religion quand nous étions enfants, peut-être avons-nous grandi dans l'Église, peut-être pas. Peut-être avons-nous grandi dans l'Église de Dieu, ou peut-être avons-nous grandi dans l'Église catholique, ou dans l'Église protestante, ou peut-être avons-nous grandi musulmans, juifs ou autres. Souvent, le point de départ pour les gens dans le monde n'est pas de se demander qu'enseigne Dieu dans sa parole, et de rechercher la vérité, quelle qu'elle soit, que ce soit celle qu'ils veulent suivre, celle que Dieu dit. L'hypothèse est la suivante, je vais croire ce que ma famille croit, je vais les croire sur parole. Et souvent, la Bible n'est même pas ouverte. La preuve n'est pas quelque chose qui importe particulièrement, surtout lorsqu'il s'agit de trouver la vérité de la parole de Dieu. Prouver quelque chose n'est pas nécessairement une préoccupation pour le monde. Ce qui les préoccupe, c'est de savoir s'ils veulent aller à l'église. S'ils veulent être religieux, ils veulent juste s'assurer d'aller à l'église tous les dimanches, principalement parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. C'est la tradition qu'ils ont. Et quand ils vont à l'église, ils entendent peut-être quelques versets, mais la plupart du temps, en particulier dans l'Église catholique, ce ne sont souvent que des rituels. Très peu de choses sont ancrées dans ce qu'enseigne réellement la Bible. Nous devons donc être différents, mes frères. Les églises du monde sont ancrées dans des suppositions. Elles adoptent une croyance qu'elles veulent croire, ou peut-être ont-elles simplement toujours cru, et elles n'essaient pas d'aller plus loin pour la prouver. Elles n'essaient pas de les réfuter ou de découvrir ce que Dieu dit à ce sujet. Elles les acceptent simplement telles quelles, au lieu de se tourner vers la parole de Dieu et d'essayer de creuser pour découvrir la vérité. Prenez la Trinité, par exemple. Beaucoup de gens supposent que le Dieu de la Bible est une Trinité, Parce que c'est ce qu'on leur a toujours enseigné. Je sais que c'est ce qu'on m'a enseigné. Lorsque j'ai découvert la vérité sur la Trinité et que j'ai été confronté à un prêtre catholique, mes parents ont voulu que nous parlions avec lui avant de décider d'aller de l'avant, de continuer et de suivre la vérité de la Bible. Nous nous sommes assis avec le prêtre catholique et avons discuté des mérites de toutes sortes de doctrines, y compris la Trinité. Et cela m'a frappé à l'époque, plutôt que... Vous savez, nous expliquions que nous ne croyons pas que la Trinité soit le Dieu de la Bible. Nous croyons que la Bible parle de deux êtres divins. Dieu le Père et Jésus-Christ. À maintes reprises, il omet le Saint-Esprit dans toutes les épîtres. Nous avons passé en revue tous les différents points, pour ainsi dire, en discutant avec ce prêtre, ce prêtre catholique, pour lui expliquer pourquoi nous croyons qu'il n'y a pas trois êtres divins dans la Trinité, qu'il n'y en a que deux. Et sa réponse n'a pas été d'ouvrir la Bible. Sa réponse a été de prendre un, comment dit-on, un marqueur effaçable, d'aller vers un tableau blanc derrière lui et de commencer à dessiner un schéma de la Trinité, tout en parlant. Et pendant qu'il en parlait, il admettait même que c'était très confus, difficile à comprendre et très vague, et que nous ne pouvions pas vraiment comprendre. C'est mystérieux, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas saisir pleinement, mais nous devons simplement y croire. En d'autres termes, faites-moi confiance. Faites-moi simplement confiance. N'allez pas chercher la parole de Dieu. Ne cherchez pas ce que dit la Bible. Ne cherchez pas ce que dit Dieu lui-même, qui est censé faire partie de cette Trinité. Non. Croyez-moi sur parole, parce que c'est ce qu'on m'a enseigné. On m'a enseigné que c'était mystérieux. Ceux qui m'ont précédé croyaient que c'était mystérieux et ne le comprenaient pas vraiment. Ceux qui leur ont enseigné croyaient que c'était mystérieux et ne le comprenaient pas eux-mêmes. Car, mes frères, c'est souvent ainsi que sont les églises dans le monde. Elles sont sincères dans leurs croyances, mais elles sont simplement, comme l'a dit M. Pack, sincèrement dans l'erreur. Elles ont tort de croire cela. Maintenant, est-ce leur faute? Eh bien, Dieu a mis un voile sur elles, et il n'appelle pas encore les gens, le grand nombre dans le monde, à ce stade. Donc, le point ici est que nous ne pouvons pas être comme cela. Si Dieu nous appelle, s'il a ouvert nos yeux à la vérité, nous ne pouvons pas être comme le monde, nous nous contentons de dessiner des diagrammes et de supposer que ce qu'on nous a enseigné dans le passé est vrai, sans jamais examiner un seul mot de ce que Dieu dit à ce sujet. Nous devons tout vérifier. Nous ne pouvons pas tout supposer. Nous ne pouvons pas supposer que Dieu est une trinité. Nous ne pouvons pas le supposer. Nous devons creuser et le prouver. Et ce que nous découvrirons, mes frères, très clairement et très facilement, et M. Pack a écrit un livre à ce sujet, c'est que Dieu n'est pas une trinité. C'est très facile à comprendre dans la Bible, mais cela demande du travail. C'est ce qui nous sépare de Dieu, du reste des églises du monde. Nous nous efforçons de ne jamais laisser les suppositions dicter la doctrine. Et si nous, mes frères, si nous découvrons un jour que nous avons supposé quelque chose de faux dans la Bible, devinez quoi? Nous le corrigeons. Nous ne nous contentons pas de suivre la tradition. Nous ne nous contentons pas de nous accrocher à ce que nous avons appris auparavant. Nous corrigeons. Pensez-y. Je sais que c'était un détail, mais c'est puissant. C'est puissant. On pourrait supposer que lorsque nous faisons partie de la famille de Dieu et que nous avons la vie éternelle, nous n'avons pas d'elle. Pourquoi supposerions-nous cela? Nous le supposons pour les mêmes raisons que nous avons supposé que nous n'avions pas le droit de sortir des limites de cette boîte, de ces 9 points. Nous avons supposé que nous n'aurions pas d'ailes, en partie, probablement, parce que nous n'avons pas d'ailes aujourd'hui, n'est-ce pas? Et nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, oui, nous le sommes. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais nous savons aussi que nous ne sommes pas exactement à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que Dieu est. Il brille, et nous savons que Christ, quand il viendra, il va. Tous, excusez-moi. Il a les pieds d'airain et les yeux de feu. Nous ne sommes pas exactement à l'image de Dieu de cette manière. Nos yeux ne sont pas en feu en ce moment. Nous n'avons pas les jambes d'airain ni rien de ce genre, ni les pieds. Nous n'avons pas. Nous ne sommes pas encore exactement à l'image de Dieu. Nous sommes créés à son image. Mais on supposait que, puisque nous n'avons pas d'aile aujourd'hui et que nous sommes créés à son image, nous n'aurons jamais d'aile. Eh bien, cette hypothèse a été réduite à néant lorsque nous avons lu et relu à maintes reprises que non seulement Dieu a des ailes, mais que nous en aurons aussi à l'avenir. Nous vivons sous les ailes du Tout-Puissant. Et il est dit dans Ésaïe 40 verset 31. Tournez la page. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres où nous avons fait une hypothèse dans le passé et où nous l'avons corrigée parce que nous avons prouvé ce que Dieu dit dans sa parole. Nous avons cessé de supposer quelque chose et nous avons commencé à le prouver. Ésaïe 40 verset 31 dit ceci. Ce verset parle de nous. Il dit, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Il ne dit pas que nous monterons comme des aigles avec des ailes. Il dit que nous monterons avec des ailes comme un aigle aurait des ailes. C'est irréfutable. Nous aurons des ailes lorsque nous entrerons dans la famille de Dieu. Nous n'en avons pas maintenant. » Le message de M. Wingfield a récemment parfaitement illustré cela, car il a expliqué que nous ne pouvons pas faire d'hypothèse sur Dieu lui-même. Cela signifie que nous ne pouvons faire aucune supposition sur quoi que ce soit. Dieu veut que nous vérifions tout. Il veut que nous creusions, que nous travaillions, que nous soyons de bons élèves, des ouvriers dans la Bible, afin de découvrir ce qu'il attend de nous. Mais grâce à l'étude et à la vérification, nous n'avons pas besoin de supposer quoi que ce soit. Dieu nous dit à quoi nous allons ressembler. Ce n'est qu'un exemple. Le fait que nous aurons des ailes, c'est un petit exemple, mais c'est, encore une fois, c'est ce qui nous distingue des autres églises dans le monde. Lorsque nous prouvons quelque chose et que nous voyons ce que dit la parole de Dieu, nous y adhérons. Nous vivons selon elle. Nous ne nous contentons pas de perpétuer la tradition et de l'ignorer. Nous ne la supprimons pas de la Bible comme Thomas Jefferson. Or, les suppositions sont omniprésentes dans la Bible, partout. Ouvrez votre Bible au chapitre 1 de Jean. Chapitre 1 de Jean. Nous allons passer en revue quelques exemples de suppositions et montrer à quel point elles sont répandues et combien il est facile de tomber dans le piège des suppositions sans même s'en rendre compte. Mais appelons les choses par leur nom. Identifions-les afin de pouvoir commencer à les identifier dans notre vie également. Plus nous les voyons dans la parole de Dieu, et plus nous voyons que les gens sont tombés dans le piège des suppositions encore et encore, plus nous pouvons nous regarder et nous dire, « Tu sais quoi? Est-ce que je fais des suppositions? Peut-être que je fais des suppositions plus souvent que je ne le pensais. » Et cela nous aide à changer. Jean, chapitre 1, verset 44. Philippe, qui était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre, trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a annoncé dans la loi, celui dont Moïse a parlé dans la loi et les prophètes, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Nathanaël lui répondit, « Un bonhomme peut-il venir de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Il avait une idée préconçue selon laquelle il était impossible que quelque chose de bon, sans parler de Jésus-Christ lui-même ou du Messie, puisse venir de Nazareth. Nous avons déjà vu cela auparavant, mais avons-nous déjà pensé qu'il s'agissait d'une supposition? Nathanaël a fait une grande supposition qui était fausse, et le récit nous est rapporté. Philippe l'emmena donc et lui dit, « Viens et vois. » Verset 47. Jésus vit Nathanaël qui venait vers lui et lui dit, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathanaël lui répondit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël, et ainsi de suite. » Et Nathanaël crut en lui à ce moment-là. Mais jusqu'alors, il avait fait des suppositions. Maintenant, cela semblait être un sujet assez insignifiant. Non, les suppositions sont omniprésentes dans nos vies. Si nous n'en sommes pas conscients, nous pouvons faire les mêmes suppositions. Passons à la suite. Passons au chapitre 12 de Matthieu. Vous savez, au premier siècle, beaucoup ont manqué Christ parce qu'il ne correspondait pas à leurs suppositions. Pensez aux pharisiens. Nous passons au chapitre 12 de Matthieu. Les pharisiens croyaient cela, et les juifs, beaucoup de juifs croyaient que Christ allait venir et pensaient que c'était peut-être comme le jour du Seigneur, la prochaine chose qu'ils attendaient, ou quelque chose comme cela. Je ne sais pas exactement ce qu'ils croyaient, mais ils croyaient que Christ viendrait, que le Messie viendrait et détruirait l'Empire romain. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, mais c'était leur hypothèse. Ils ont fait cette hypothèse et ont donc complètement manqué Christ lorsqu'il est venu. Tout cela à cause d'une hypothèse. C'est grave. Les hypothèses peuvent être de nature mineure et avoir certaines conséquences, ou elles peuvent être de nature majeure. Elles peuvent être comme celles des Juifs du premier siècle, qui supposaient que Christ n'était pas le Messie, ou qui supposaient que Christ viendrait détruire l'Empire romain, et qui ont complètement manqué Christ et ont fini par le tuer à cause de cela. Voilà une hypothèse aux conséquences graves. C'est incroyable. Matthieu, chapitre 12, verset 8. Car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Quand il fut sorti de là, il entra dans la synagogue. Il se rendit à la synagogue des Juifs. Et voici, il y avait là un homme qui avait la main sèche. Et ils lui demandèrent, disant, « Est-il permis de guérir le jour du sabbat ?» Les Juifs demandèrent à Christ, « Est-ce permis ?» Est-il permis de guérir le jour du sabbat ? Afin de l'accuser. Et il leur dit, « Quel homme parmi vous n'a pas une brebis, et si elle tombe dans la fosse le jour du sabbat, ne la saisit-il pas et ne la tire-t-il pas hors de là ? Combien plus cet homme vaut-il qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et il la rendit saine comme l'autre. Ses deux mains étaient désormais parfaitement opérationnelles. Les Juifs pensaient, selon leur tradition, qu'il n'était pas bon de guérir le jour du sabbat. Christ a réfuté cette idée. Il a montré qu'il était plus important d'aider quelqu'un. Si vous pouviez sortir un bœuf d'un fossé, ce qu'il savait faire, à combien plus forte raison pouvez-vous guérir quelqu'un le jour du sabbat, et cela n'est pas considéré comme du travail ? Réfléchissez à quelque chose de fascinant. Pensez-y. Les Juifs pensaient qu'il fallait respecter le sabbat de manière très pharisaïque, selon leur tradition juive. C'était leur conviction. Il s'agissait d'un fossé. Mais voici l'ironie. Le christianisme moderne lit ce verset et en tire une conclusion complètement opposée. Oh, alors, puisque nous pouvons guérir le jour du sabbat, cela signifie que nous ne sommes pas obligés de respecter le sabbat. On peut faire tout ce qu'on veut le jour du sabbat. Regardez, Christ l'a fait. Il montrait aux pharisiens qu'on n'est pas obligé, qu'on peut faire le jour du sabbat des choses que les juifs considéraient comme mauvaises. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, quand on lit ce verset, on voit que les suppositions vont bon train. Les juifs supposent une chose, le christianisme en général en suppose une autre. Mais, mes frères, notre question est la suivante, faisons-nous des suppositions sur ce que dit Dieu, ou prenons-nous la parole de Dieu dans son intégralité, en la considérant dans son ensemble, et en prouvant comment nous observons réellement le sabbat? Nous ne rejetons pas le sabbat à cause de ce verset. Nous le respectons toujours. En fait, c'est la preuve que Christ respectait le sabbat. Nous regardons cela et nous disons, nous n'allons pas rejeter le sabbat. Nous allons le respecter, parce que Christ l'a respecté, mais il l'a simplement respecté différemment des Juifs, car ceux-ci étaient pharisiens et très traditionnalistes dans leurs idées. Donc, en ce qui concerne la doctrine, nous voyons des hypothèses qui sont généralement faites lorsque l'on ne dispose pas de suffisamment d'informations. Si nous regardons ce verset isolément, et que nous sommes dans elle, dans l'église protestante ou dans l'église pentecôtiste, où que nous soyons, nous pouvons regarder ce verset et dire, « Oh, cela prouve en fait que le sabbat n'a pas besoin d'être observé, alors que nous ne le considérons pas dans son ensemble, dans le contexte de la Bible dans son ensemble. » Nous examinons des informations incomplètes. Nous tirons des conclusions et faisons des suppositions à partir d'informations incomplètes. Mais nous ne faisons pas cela dans l'Église de Dieu. Nous prenons en compte tous les versets de la Bible. Et nous savons ce que... Nous savons que nous devons respecter le sabbat, mais pas de la manière dont le faisaient les pharisiens. D'accord. Passons au chapitre 9 de Jean. Il y a une autre hypothèse. Jean chapitre 9, verset 1. Jésus, passant par là, vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Maître, qui a péché ?» Leur hypothèse immédiate était que cet homme était aveugle parce que quelqu'un avait péché. Ils ne savaient pas qui avait péché, si c'était cet homme lui-même ou ses parents, mais ils étaient convaincus que quelqu'un avait péché, causant ainsi cette cécité. Or, il s'agit là d'une supposition. C'est une supposition très importante. Voici la réponse du Christ, « Ni cet homme n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Mes frères, les apôtres, les disciples de l'époque, qui allaient devenir les apôtres, ont supposé quelque chose. Ils ont imputé un motif ou un problème, un péché à quelqu'un qui avait causé cette cécité, sans tenir compte du fait que dans l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 9, 9, 11, excusez-moi, l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11, Salomon dit que le temps et l'occasion arrivent à tous. Ils ne considéraient pas la Bible dans son ensemble. Pour une raison quelconque, ils supposaient simplement que quelqu'un avait péché, soit cet homme lui-même, soit ses parents. Dieu dit que nous ne devons pas faire cela. Christ lui-même dit que cela n'a rien à voir avec le fait qu'il ait péché ou non. Tous les hommes pêchent. Bien sûr, le péché peut conduire au mal. Il y a une cause et un effet dans la vie, et le péché peut mener à des problèmes, mais cela ne veut pas dire que le temps et le hasard n'arrivent pas à tous, et que Dieu était. Cette personne était aveuglée pour le grand dessein de l'histoire que nous pouvons lire aujourd'hui, où Christ l'a guéri. Le chapitre 13 de Luc contient quelque chose de similaire. Si vous le lisez, il parle de la tour de Siloé. Luc 13, verset 1. À ce moment-là, quelques personnes qui étaient là racontèrent aux gens de Jésus le sang des Galiléens que Pilate avait mêlé avec le sang de leur sacrifice. Jésus répondit, « Supposez-vous que c'est Galiléen ?»« Supposez-vous, supposez, c'est ce qu'il dit. Êtes-vous sûr ?» Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi de telles choses? Je vous le dis, non, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qui ont été tuées, pensez-vous, supposez-vous, croyez-vous qu'elle était plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Je vous le dis, non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Les suppositions sont omniprésentes dans nos vies, et elles peuvent être très, très dangereuses, mes frères. Nous devons simplement en être conscients. Si vous ne retenez rien d'autre de ce message, retenez au moins que vous devez repartir en étant plus conscient, plus attentif que jamais aux suppositions que vous faites dans votre vie. Car vous commencez maintenant à voir à quel point les suppositions sont présentes dans toute la Bible. Les gens, supposez-vous qu'ils sont pécheurs avant tout parce que la tour de Siloé est tombée sur eux? Non, non. Nos suppositions peuvent être trompeuses et nous amener, en fait, à mettre des mots dans la bouche de Dieu, ce qui est faux, alors qu'en réalité, il peut penser très différemment à propos de quelque chose. 1 Samuel, chapitre 16, un dernier exemple d'hypothèse dans la Bible. 1 Samuel 16, le récit de la sélection de David. 1 Samuel 16, verset 1, l'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül, puisque je t'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël ? Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Jessé, le Bethlémite. Jessé est le père de David. Car je me suis suscité un roi parmi ses fils. Samuel répondit, « Comment puis-je y aller? Si Saül apprend, il me tuera. » Et le Seigneur dit, « Prends avec toi une génisse, et dis, « Je viens pour sacrifier à l'Éternel. Appelle Jessé pour le sacrifice, et je te montrerai ce que tu dois faire. » Et tu oindras pour moi celui que je te désignerai. » Samuel fit ce que l'Éternel lui avait dit et vint à Bethléem. Les anciens de la ville tremblèrent à son arrivée. Ils voient arriver un prophète, Samuel, et ils se mettent à trembler. Et il dit, « Venez en paix. » Et ils répondirent, « En paix, oui. » Bon, alors ils essuyèrent la sueur de leur front. « Je suis venu pour offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous, et venez à moi avec votre sacrifice. » Et il purifia Jessé et ses fils, et les appela pour le sacrifice. Quand ils arrivèrent, il regarda Eliab et dit, « C'est sûrement loin du Seigneur qui se tient devant lui. » Samuel fit une supposition. Samuel. Il regarda d'abord David, ou plutôt le premier fils de Jessé, le frère aîné de David, Eliab. Il le regarda et dit, « C'est sûrement lui loin, c'est sûrement lui que Dieu a choisi. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Pas si vite. Ne regarde pas son apparence. C'est un grand gaillard. Ni sa taille, ni la hauteur de sa stature, car je l'ai rejeté. Dieu ne veut pas de lui. Car l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. » Et Samuel continue, frère après frère, et enfin arrive à David, qui est dans, avec les moutons. Et finalement, il choisit David, le plus petit. Et c'est celui que Dieu a choisi. Les suppositions sont partout. Partout. Mes frères. Le but de ce message est de nous assurer que nous ne faisons pas de suppositions sur la volonté de Dieu dans nos vies. La nature humaine a généralement tendance à faire des suppositions basées sur les apparences, les circonstances, les préjugés, les premières impressions. Vous savez, les suppositions, c'est pour cela que les stéréotypes existent. Les stéréotypes existent parce que les gens veulent, les gens aiment faire des suppositions. Ils aiment supposer que toutes les personnes d'une certaine race ou d'un certain sexe ou autre sont identiques. Et ce n'est pas vrai, mais les suppositions font partie intégrante de notre nature humaine. Nous ne devons pas oublier que Dieu dit que nous devons tout examiner et ne pas tout présumer. Maintenant, souvenez-vous de ce qui est dit, que l'esprit charnel est ennemi de Dieu. L'esprit charnel, notre esprit naturel, déteste Dieu. Nous sommes l'ennemi, notre esprit charnel est l'ennemi de Dieu et considère Dieu comme son ennemi. Maintenant, si notre esprit charnel lit dans la Bible que Dieu dit de tout éprouver, que pensez-vous que notre esprit charnel veuille naturellement faire? Il veut faire le contraire. L'esprit charnel pense le contraire de ce que Dieu veut. Ainsi, si Dieu dit « éprouvez toutes choses », naturellement, mes frères, nous ne voulons pas éprouver toutes choses. Nous voulons simplement supposer toutes choses. Nous voulons supposer que ce que nous croyons est juste. Nous voulons supposer que ce que nous faisons est bien. Mais Jérémie 17 verset 9 dit ceci, Jérémie 17 verset 9, verset à mémoriser, « Le cœur est trompeur par-dessus tout, et le cœur est désespérément malin. Qui peut le connaître ? Voulons-nous vraiment que nos cœurs trompeurs, plus que tout, désespérément pervers, dictent les décisions que nous prenons dans notre vie ? Parce que nos esprits désespérément pervers qui sont ennemis de Dieu, veulent simplement supposer toutes choses. Et cela est dangereux. Nous ne pouvons pas laisser cette partie de nous-mêmes. Parce que, mes frères, que cela nous plaise ou non, la nature humaine fait partie de nous. Nous essayons de l'éradiquer, d'en éliminer autant que possible. Mais jusqu'à notre mort, nous aurons toujours une nature humaine, et nous aurons toujours des esprits trompeurs si nous leur permettons de prendre le contrôle. Nous ne pouvons donc pas laisser nos esprits trompeurs et notre nature humaine diriger les décisions que nous prenons dans la vie, car ils aiment présumer des choses. Ils ne veulent pas prouver toutes choses. Cela ne mènera jamais à rien de bon. Proverbe, chapitre 23. Proverbe, chapitre 23. Nous allons lire le verset 4. Proverbe 23, 4. Ne te fatigue pas pour devenir riche, cesse de te fier à ta propre sagesse. Veux-tu voir tes yeux se fixer sur ce qui n'est pas? Car les richesses se font des ailes, elles s'envolent comme un aigle vers le ciel. Vous savez, pour résumer, ce n'est qu'une remarque en passant, mais accumuler des richesses dans ce monde ne nous apporte rien. Tout cela s'envolera. Si vous croyez ce que dit la Bible, alors accumuler des richesses est une quête vaine dans cette vie. Cela ne nous aide en rien à entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. En fait, cela nous en empêche. Cela nous empêche d'entrer dans la famille de Dieu de la même manière. Seulement par le chat d'une aiguille, si. Vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu que si, comment dit-on déjà? Un chameau passe par le chat d'une aiguille. C'est impossible. Un chameau ne peut pas passer par le chat d'une aiguille. C'est tout aussi difficile. Il est aussi difficile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela ne nous sert donc à rien. Ne mangez pas le pain de celui. Verset 6. Qui a un regard malveillant, et ne convoitez pas ses mets délicats. Car tel qu'il est dans son cœur, tel il est. Mangez et buvez, dit-il, mais son cœur n'est pas avec vous. Tel qu'il est dans son cœur, tel il est. Toute notre vie, mes frères, toute notre vie est basée sur ce que nous pensons. Vous avez entendu l'expression « vous êtes ce que vous mangez », qui est vraie dans un certain sens. Si vous ne mangez que de la malbouffe tout le temps, vous prendrez du poids ou vous serez en mauvaise santé. Vous êtes ce que vous mangez. Eh bien, en réalité, si nous prenons cette expression dans la parole de Dieu, nous sommes ce que nous pensons. Ce que nous pensons dans notre vie, si nous laissons notre nature humaine trompeuse prendre le contrôle et conduire la voiture de notre esprit, si je peux m'exprimer ainsi, si nous laissons la nature humaine prendre le volant et conduire notre vie, alors les suppositions vont prévaloir. Toutes nos décisions dans la vie proviennent de l'une de deux sources. Elles sont soit enracinées dans des suppositions, soit enracinées dans des faits, des preuves et des témoignages. Plus nous avançons dans la vie et plus nous vérifions les choses, moins nous laissons notre nature humaine trompeuse prendre le dessus. C'est assez simple. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 15. Pourquoi étudions-nous la Bible? Pourquoi? Nous savons que nous devons le faire. C'est l'un des outils de la croissance chrétienne, mais pourquoi étudions-nous? Mes frères, le but est simple. Dans le deuxième chapitre de la deuxième épître à Timothée, verset 15, il est dit « Étudie afin de te présenter devant Dieu comme un homme approuvé. Si vous étudiez, vous montrez à Dieu que vous vérifiez tout. C'est aussi simple que cela. Et si nous vérifions tout, la manière dont nous le faisons est de nous montrer comme des ouvriers qui n'ont pas à rougir, qui dispensent droitement la parole de vérité. Nous devons nous appliquer dans les Écritures. Nous devons travailler. Étudier la Bible n'est pas une tâche facile, surtout si nous essayons de trouver des domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. Si nous constatons que nous faisons beaucoup de suppositions dans la vie, nous devons étudier quelle est la volonté de Dieu dans tous les domaines. Car nous pourrions découvrir, mes frères, que Dieu attend de nous quelque chose de différent de ce que nous pensions. Samuel ne s'attendait pas à ce que Dieu vienne lui dire, « Non, Eliab n'est pas celui que je cherche. » Samuel pensait, « Le voilà. Regardez-le. Il est parfait. C'est le premier-né de Jessé. Il est grand, fort. Il pourrait remplacer Saül. » Non, non, non. On ne peut pas faire de suppositions, car cela demande du travail. Il faut travailler pour prouver toute chose. Cela demande du travail et des efforts, ce qui est difficile, mais au final, vous aurez une grande confiance dans les décisions que vous prenez. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, de présenter vos corps comme un sacrifice vivant. Être un sacrifice vivant signifie en partie prouver toute chose, car c'est difficile, c'est un sacrifice que de passer du temps à travailler pour prouver quelle est la volonté de Dieu dans une affaire. Présentez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable, et ne vous conformez pas au monde présent. Le monde se concentre sur le fait de tout supposer. Nous l'avons vu. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu veut que nous, tous, excusez-moi, comprenions son esprit et sa volonté. La seule façon d'y parvenir est d'étudier la parole de Dieu, de prier, de se concentrer et d'être proche de Dieu. Plus nous sommes éloignés de Dieu, plus nous faisons de suppositions. Plus nous sommes proches de Dieu, plus nous connaissons sa volonté pour nous, ce qu'il attend de nous et ce qu'il attend de nous dans la vie, et moins nous faisons de suppositions. C'est tout. Rapprochez-vous de Dieu et vous ferez moins de suppositions. Éloignez-vous de Dieu et les suppositions abonderont. Plus nous sommes proches de Dieu, plus nous avons confiance, car nous avons vérifié toutes choses. Dès que nous croyons ce que les autres disent sans le vérifier par nous-mêmes, nous commençons à enfreindre la loi des suppositions. C'est la loi cachée qui est écrite dans toute la parole de Dieu. C'est particulièrement important pour les jeunes dans l'Église de Dieu, qui se préparent peut-être au baptême. Si vous avez grandi dans l'Église, si vous avez fréquenté l'Église pendant une partie de votre jeunesse, que vous soyez adolescent ou au début de la vingtaine, que vous vous prépariez au baptême ou que vous y réfléchissiez, que vous essayiez de déterminer ce que vous voulez faire de votre vie, où vous voulez aller, voici un chemin simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de décider, je ne veux rien présumer. Je ne veux pas présumer de ce que mes parents m'ont enseigné. Je ne veux pas présumer de ce que le monde enseigne. Je veux le prouver par moi-même. Et si nous prenons cette décision, si nous prenons simplement la décision active de tout vérifier, de prendre à cœur 1 Thessaloniciens 5 verset 21 et de vivre selon cette parole, mes frères, mes jeunes adultes, cela rendra votre vie beaucoup plus facile, car vous découvrirez que la parole de Dieu a beaucoup à dire. Dieu a beaucoup à dire, mais c'est très simple. Et j'espère que vous pourrez prouver la même chose que vos parents, à savoir que c'est ici que Dieu œuvre. Qu'il n'y a pas d'autre endroit comme celui-ci sur terre, qu'il n'y a pas d'autre personne comme celle-ci sur terre, parce que nous ne faisons pas de suppositions. Nous croyons ce que Dieu dit et nous vivons selon cela. Nous pouvons même faire des suppositions sur nous-mêmes et sur notre caractère. Or, il y a deux façons erronées de faire des suppositions sur notre caractère. Premièrement, nous pouvons supposer que nous allons bien alors que ce n'est pas le cas. Nous pouvons croire que tout va bien dans notre vie. Tout va bien, et ensuite, tout ne va pas bien. Ou deuxièmement, nous pouvons supposer que nous sommes tout simplement irrécupérables, que Dieu nous a déjà jugés et que nous avons peut-être commis le péché impardonnable, et nous nous jugeons trop sévèrement. Ce sont les deux fossés qui renferment des hypothèses sur notre caractère, et il est facile de tomber dans les deux. Croyez-moi, il est difficile de trouver le juste milieu. Il est difficile de rester au milieu de la route. C'est très difficile, car un jour, nous pouvons nous permettre de faire certaines choses que nous savons que nous ne devrions pas faire, mais nous fermons les yeux et nous nous disons, « Oh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. » Puis, le lendemain, nous pourrions nous en vouloir pour quelque chose que nous avons juste. C'est. Pourquoi vous en voulez-vous? Ce n'est pas grave. Nous devons trouver le bon équilibre. Nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous et comprendre que nous allons pécher, mais que nous ne pouvons pas simplement laisser le péché entrer dans notre vie. Nous allons tomber, mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas nous relever. Nous devons nous relever. Nous devons essayer de surmonter nos difficultés. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 10. Parlons du premier fossé. Le type de personne qui pense qu'elle va bien, mais qui ne va pas bien du tout. Nous ne voulons pas penser que tout va bien, mes frères. Nous ne voulons pas tomber dans ce fossé. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Verset 11. Or, toutes ces choses leur sont arrivées en Israël pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. C'est pourquoi. Voici le verset clé. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Si nous pensons que nous sommes debout, mes frères, ce verset suppose que nous pensons que nous sommes debout. Nous pensons que nous sommes debout. Nous nous regardons et nous supposons que tout va bien dans notre vie. C'est une grave erreur, car si nous ne prenons pas garde, nous tomberons, car cela fait partie de la parole de Dieu. C'est lui qui le dit. Il dit que si nous pensons que nous sommes debout et que nous ne prenons pas garde, nous tomberons. C'est aussi simple que cela. Être élevé par l'orgueil, être hautain ou arrogant, est très dangereux pour un chrétien. Nous nous élevons dans notre esprit, nous nous exaltons et nous nous mettons sur un piédestal dans notre esprit. Cela peut être très dangereux. Et plus nous pensons ainsi, moins nous ressentons le besoin de prouver ce qui est juste selon la parole de Dieu, car, eh bien, regardez-moi. J'ai toutes les réponses. Pourquoi aurais-je besoin de Dieu? Je suis déjà debout. Tout va bien. Je n'ai pas besoin de me tourner vers la parole de Dieu. Je suis déjà debout. Je n'ai pas besoin qu'il me dise que je suis déjà debout. Je le sais déjà par moi-même. C'est très, très dangereux. Nous ne pouvons pas présumer que nous sommes debout dans la vie. Nous pouvons regarder la parole de Dieu, et si nous trouvons confirmation dans la parole de Dieu, vous savez quoi? Je m'en sors plutôt bien dans ce domaine, je peux le dire. Je peux dire, vous savez quoi? Je n'ai pas menti depuis très longtemps. Je me sens très bien à ce sujet. Je peux réellement sentir que je peux dire, selon la parole de Dieu, je regarde ma vie, je vérifie tout, je m'examine, et je vois, vous savez quoi? Je n'ai pas menti depuis longtemps. Je me sens bien à ce sujet. Mais dès que nous commençons à penser, vous savez quoi? Je m'en sors bien. Je m'en sors vraiment bien. Je ne pense pas que j'ai besoin de continuer à tout examiner, il faut faire attention, car nous risquons de retomber dans le péché. C'est le danger de rester dans l'église de Dieu pendant un certain temps. Vous pourriez. Cela vient par vagues. Vous pourriez vous voir surmonter quelque chose, puis commencer à voir cela revenir, puis surmonter autre chose, puis voir cela revenir, puis surmonter. Vaincre n'est pas une ascension parfaite. C'est une bataille difficile. La nature humaine ne disparaît jamais, mes frères, nous ne pouvons donc pas supposer que nous sommes toujours debout. Nous devons constamment vérifier, constamment prouver, examiner notre caractère et prouver que nous ne faisons aucune supposition à son sujet. Et avoir l'esprit fermé est très dangereux et peut également conduire à des suppositions. Les gens pensent qu'ils savent tout, ou supposent qu'ils se débrouillent très bien tout seuls. C'est très dangereux. Passons au chapitre 6 de l'Épître aux Galates. Galates 6. Verset 3. Reprenons au verset 1. Frères et sœurs, si un homme est surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur, en vous regardant vous-même, de peur que vous ne soyez aussi tentés. Si vous allez aider quelqu'un d'autre, comprenez qu'il y a un danger que vous soyez également tentés, alors vous feriez mieux d'être prêt lorsque vous allez aider quelqu'un d'autre. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Mais sachez, mes frères, que c'est bien d'aider les autres. C'est bien d'aider les gens à sortir du péché si vous voyez quelque chose, mais voici le problème. Car si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Mais que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier seul, sans se comparer à un autre. La seule façon d'avoir une joie véritable en nous-mêmes et dans notre caractère est de prouver notre caractère, de prouver notre travail. Nous ne pouvons pas penser que nous sommes quelque chose alors que nous ne sommes rien, car, mes frères, il est dit que nous ne sommes rien. Nous savons que Dieu a appelé les faibles, les insensés, les humbles, les choses méprisées, les choses qui ne sont pas. Nous ne sommes rien. Dieu a appelé les riens de ce monde afin que nous puissions finalement confondre les puissants. Mais si nous prenons notre néant, que nous le regardons et que nous disons, « Oh, je ne pense pas. Je pense que je suis en fait quelqu'un », Dieu dit, « Waouh, 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 waouh. Tu t'es trompé. Tu as fait une supposition, et cette supposition est trompeuse. Souviens-toi que le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément mauvais. C'est ainsi que tu sais que lorsque des suppositions surgissent, c'est la preuve que l'esprit charnel prend le dessus, l'esprit trompeur, la nature humaine prend le dessus. Mais nous pouvons faire attention à cela si nous mettons notre propre travail à l'épreuve. Prouver signifie tester, essayer, examiner ou discerner. Nous devons faire nos preuves, et la seule façon d'y parvenir est d'étudier la parole de Dieu et de nous mesurer à elle. Comment me débrouille-je dans ce domaine? Comment me débrouille-je dans tel autre domaine? Maintenant, l'autre côté de la médaille est le suivant. Tournez à Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 3, Jean 8, 3. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère. Elle fut amenée à Christ. Et ils la placèrent au milieu et dirent à Jésus, « Maître, ils lui dirent, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? Que dis-tu à ce sujet ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre, comme s'il ne les entendait pas. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Et il se baissa de nouveau et écrivit sur le sol. Il continua. Et ceux qui l'entendaient, étant convaincus par leur propre conscience, se retirèrent un à un, depuis les plus anciens jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait au milieu. Alors Jésus, s'étant relevé, ne vit personne d'autre que la femme. Il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et ne pêche plus. » Cette femme surprise en flagrant délit d'adultère prouve que nous pouvons faire des suppositions, les Juifs ont fait des suppositions, ils ont supposé qu'elle serait condamnée, qu'elle devrait être lapidée. Et nous aussi, mes frères, nous pouvons nous juger trop sévèrement. Cette femme a peut-être même, la foule l'a certainement fait, mais cette femme a peut-être même regardé en elle-même et pensé et supposé qu'elle serait condamnée, qu'elle serait lapidée à mort. Mais Christ a montré qu'il n'en était rien. Quelle leçon pouvons-nous en tirer? Nous pouvons facilement nous regarder et voir l'autre côté du fossé. Vous savez, il y a ce côté du fossé où les gens ne se jugent pas assez, ils se regardent et disent « Je vais très bien, merci ». Mais de l'autre côté du fossé, vous avez le problème de supposer que vous êtes dans une situation désespérée alors qu'en réalité tout va bien. Vous commettez simplement. Vous péchez peut-être, vous faites peut-être quelque chose de mal, mais cela ne signifie pas que vous allez être lapidé à mort ou perdre la vie éternelle. Lorsque nous examinons notre caractère, nous devons simplement nous comparer à la parole claire de Dieu. Ni plus, ni moins. Nous devons trouver cet équilibre. C'est très difficile, mais nous devons trouver cet équilibre. Dieu regarde dans nos cœurs et il sait que chacun d'entre nous penche probablement plus naturellement d'un côté ou de l'autre. Certains d'entre nous se jugent trop sévèrement, d'autres trop indulgents. Quel que soit le camp dans lequel vous vous trouvez, essayez naturellement de pencher un peu plus de l'autre côté. Essayez de vous juger un peu plus sévèrement, Plus strictement, si vous trouvez que vous êtes trop indulgente envers vous-même. Mais si vous êtes trop dur avec vous-même, accordez-vous un peu de répit. C'est parfois difficile. Parfois, vous devez demander conseil et dire, vous savez, j'ai vraiment du mal à lâcher prise. Un conseiller pourra vous aider. Bon, nous avons vu que nous pouvons faire des suppositions sur notre caractère. Nous avons vu plus tôt dans ce message que nous pouvons faire des suppositions sur la doctrine. Nous pouvons facilement faire des suppositions sur la doctrine. Les églises du monde entier le font tout le temps. Nous nous efforçons de ne pas le faire. Mais il y a un dernier domaine de notre vie où les suppositions peuvent surgir régulièrement. Si vous avez lu le livret « Comment construire un mariage heureux », M. Pack décrit trois grandes causes de problèmes dans le mariage. Si vous vous en souvenez, si vous avez lu le livret, je vous encourage à le faire. Même si vous n'êtes pas marié, c'est très utile de le lire. Ce sont de grandes leçons. Les trois grandes causes de problèmes dans le mariage sont les suivantes, excusez-moi, les finances, le sexe et, troisièmement, la communication. La communication. Ce troisième point recoupe le sujet d'aujourd'hui, la communication. C'est un domaine de notre vie où nous pouvons très facilement faire des suppositions, et cela peut être très préjudiciable, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Souvent, le problème sous-jacent à la communication réside dans les suppositions. Pensez-y. Prenons l'exemple d'une femme. Si une femme. Je suis marié, beaucoup d'entre vous, messieurs, ont peut-être déjà vécu cela dans une certaine mesure. Si une femme attend de son mari qu'il remarque certaines choses dans la maison et qu'il l'aide, mais qu'elle ne lui dit rien, elle devient de plus en plus contrariée. Elle se dit, oh, tu sais quoi, cela. Peu importe ce que c'est, peut-être que la porte du garage est cassée ou que les enfants ont laissé traîner leurs jouets partout et qu'ils ne les ramassent pas, et que son mari continue de passer devant, sans rien faire, sans aider à ramasser, sans aider à faire quoi que ce soit dans la maison. Elle voit cela et est de plus en plus contrariée, mais ne dit rien. Elle commence simplement à ruminer, encore et encore. Finalement, elle explose et dit « Pourquoi tu ne m'aides pas à la maison? Pourquoi tu ne répares pas cela? Ça ne marche plus depuis des années, peu importe ce que c'est. Si une femme attend. Si une femme attend quelque chose de son mari mais ne le lui dit pas, est-ce elle qui est en tort, ou est-ce le mari qui est en tort parce qu'il ne l'a pas vu, ou ne l'a pas remarqué, ou n'a rien fait pendant longtemps? Eh bien, la réponse est, mes frères, que les deux sont en tort. Vraiment, les deux sont en tort. Les deux parties peuvent faire mieux. Et ce n'est qu'un conseil général en matière de mariage. Si vous y réfléchissez bien, souvent, lorsqu'un couple a besoin d'une thérapie de couple, il cherche toujours la faute chez l'autre. Mes frères, la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Vous devez presque partir du principe que votre conjoint ne changera peut-être jamais. Et vous devez vous détendre et accepter que cela puisse être le cas. Mais le problème dans cet exemple, dans ce scénario, c'est que les deux parties auraient pu mieux faire preuve. Le mari aurait pu être plus attentif, plus vigilante à son environnement, et aider sa femme, voyant qu'elle était déjà occupée à faire diverses choses dans la maison. Mais la femme aurait pu demander à son mari en lui posant une simple question, en communiquant, et en ne supposant pas qu'il l'avait peut-être vue et était passé devant encore et encore et encore et encore et encore. Au lieu de supposer qu'un jour, il le verrait, passerait devant et le ferait, elle aurait pu simplement lui dire, « Chérie, je vois que la porte du garage est cassée depuis un moment. Tu pourrais la réparer un de ces dimanches prochains ?»« Oui, bien sûr. » Tu sais quoi? Je n'avais pas remarqué. Peut-être qu'il l'avait remarqué. Peut-être que tu aurais dû le remarquer. Pourquoi ne l'as-tu pas remarqué? Les deux partenaires doivent assumer leurs responsabilités dans une relation. Mais nous ne pouvons pas supposer que parce que nous voyons quelque chose, notre partenaire le voit aussi. La communication aurait donc très facilement permis de remédier à cette situation. Les hommes et les femmes sont très différents. Les hommes pensent différemment des femmes. Les femmes pensent différemment des hommes. Nous voyons et utilisons les émotions différemment. Il n'est donc pas judicieux de faire des suppositions sur votre conjoint. Parlez-leur. Communiquez. Plus nous communiquons, plus notre mariage sera efficace. Des conversations simples et souvent courtes peuvent atténuer de grandes difficultés, de grands conflits. Mes frères, autant que nous. Encore une fois, le but est de voir où nous faisons des suppositions, et nous pouvons voir que la communication est un domaine très vaste où nous pouvons vraiment avoir des lacunes. Nous pouvons souvent faire des suppositions sans même nous en rendre compte. Sans même le savoir. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Plus nous communiquons, si nous prenons l'habitude de communiquer davantage avec les autres, que ce soit notre conjoint, un collègue ou nos amis, moins nous risquons d'avoir des problèmes et des conflits. En général, lorsque des problèmes et des conflits surgissent, cela est dû à un manque de communication. Donc, si nous arrêtons de faire des suppositions et que nous communiquons simplement avec les autres, cela aidera à apaiser les tensions. Les suppositions proviennent souvent d'un manque de communication, c'est-à-dire que vous ne communiquez tout simplement pas quelque chose, ou d'une communication peu claire. Si nous ne sommes pas clairs dans ce que nous disons, si nous décidons de dire quelque chose à quelqu'un, par exemple, chérie, pourrais-tu réparer telle ou telle chose dans la maison, mais que nous ne sommes pas clairs sur ce dont il s'agit, l'autre personne ne comprendra pas. Une communication claire contribuera également à éliminer toutes les suppositions. Passons maintenant au chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Chapitre 13. Bon, nous reprenons au verset 12. C'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici d'ancienne cité, mais nous en recherchons une future. Par lui, par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est le fruit de lèvres qui confesse son nom. Plus nous communiquons avec Dieu, plus nous communiquons non seulement entre nous, mais aussi avec Dieu. Plus nous communiquons avec Dieu, en le louant, en le remerciant, plus nous nous rapprochons de lui et moins nous faisons de suppositions dans la vie. Ce n'est qu'une remarque en passant. Nous devons communiquer non seulement les uns avec les autres, mais aussi avec Dieu. Verset 16. Mais n'oubliez pas de faire le bien et de communiquer. N'oubliez pas de faire le bien et de communiquer. Communiquer signifie participer, être sociable, avoir des relations sociales, contribuer et fraterniser. Dieu veut que nous communiquions les uns avec les autres. Si nous ne communiquons pas, des suppositions surgissent naturellement. La communication permet d'atténuer les suppositions, en particulier une communication claire. Il est dit n'oubliez pas. Si nous devons tout éprouver dans la vie et ne rien supposer, il est dit n'oubliez pas cela. Faites-le tout le temps. Tout comme nous devons tout éprouver, nous devons tout communiquer. Cela nous aidera grandement. Naturellement, nous considérons la communication comme la façon dont nous parlons, les choses que nous disons aux autres. Ce que nous disons aux autres est important. Il est important que ce que nous disons soit dit au bon moment et clairement. Mais ce que nous disons, Comment nous le disons et quand nous le disons ne constitue pas la totalité de la communication. On pourrait soutenir que l'aspect le plus important de la communication n'est pas le fait de parler, mais celui d'écouter. Quelqu'un peut vous dire quelque chose, mais si vous n'écoutez pas attentivement, si vous n'écoutez pas soigneusement ce qu'il dit, vous partirez en pensant que vous avez tout entendu et vous agirez en fonction de vos suppositions. Cela peut être très dangereux. Il est donc essentiel, absolument essentiel, d'être à l'écoute pour communiquer clairement. Ouvrez votre Bible au chapitre 18 du livre des Proverbes. Proverbe 18, verset 13. Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté, c'est la folie et la honte pour lui. Si vous répondez avant d'avoir écouté, cela peut signifier que vous vous emportez et que vous n'attendez pas que quelqu'un ait fini de parler. Vous n'avez qu'une partie de l'information, mais vous interrompez votre interlocuteur et vous lui répondez quand même. Ou bien, si vous entendez tout, mais que vous n'écoutez pas correctement, vous n'entendez qu'une partie de l'information, puis vous partez et vous vivez votre vie sans tenir compte de toute l'information dont vous disposez. Ne répondez pas avant d'avoir entendu. Encore une fois, au moins 50% de la communication consiste simplement à écouter. Si nous n'écoutons pas toute la question avant de tirer des conclusions hâtives, nous basons notre décision sur des suppositions, ce qui peut nous être très préjudiciable. Nous ne voulons pas cela. Vous savez, les suppositions sont omniprésentes dans nos vies. Ma femme et moi avons travaillé dans des camps pendant plusieurs années, et souvent, les suppositions apparaissent à cause d'un manque de communication. Une fois, certaines affaires ont été laissées dans un van et plusieurs personnes ont été chargées d'aller les récupérer. Mais comme aucune d'entre elles ne s'est parlé, il n'y a pas eu de communication et tout est resté dans le van. La nourriture aurait pu se gâter en restant toute la nuit dans le van. La rupture de la communication, le manque de communication, la communication floue nous amènent à faire des suppositions. Tout le monde dans ce camp supposait que quelqu'un d'autre s'en occuperait, car il y avait une rupture de communication. Nous ne voulons jamais que cela se reproduise. Il est donc très important de communiquer de manière excessive dans ce domaine. Même si vous pensez qu'il n'est pas nécessaire de communiquer quelque chose, s'il y a une chance que quelqu'un ait mal compris, mal interprété ou n'ait pas entendu tout ce que vous avez dit, assurez-vous de clarifier les choses. Communiquez de manière excessive lorsque cela est nécessaire, car cela vous aidera à résoudre toutes sortes de problèmes. La nourriture ne sera pas oubliée dans les camionnettes, ou quel que soit le scénario. Cela peut être n'importe quoi dans la vie. Nous pouvons parler de choses très insignifiantes, très petites dans la vie, ou nous pouvons parler de choses très importantes. Des choses très importantes. Nous ne voulons rien présumer. Nous voulons vérifier tout ce que nous savons. Et l'autre chose, c'est de ne pas présumer que vous savez où les gens veulent en venir dans leur conversation. Vous savez, si quelqu'un vous raconte une histoire, peut-être s'agit-il d'une personne âgée ou de quelqu'un que vous connaissez, un parent, dont vous avez déjà entendu l'histoire plusieurs fois, ou dont vous avez déjà entendu la leçon plusieurs fois, laissez-le continuer à parler. Laissez-le vous raconter l'histoire jusqu'aux boutiques. Savez-vous pourquoi c'est important? Parce que cette fois-ci, vous entendrez peut-être dans cette leçon quelque chose que vous n'aviez pas entendu auparavant. Et en l'entendant cette fois-ci, vous pourriez en tirer quelque chose de nouveau et l'utiliser pour vous améliorer ou améliorer les autres. Donc, même si vous avez déjà entendu toute la conversation, écoutez-la à nouveau. C'est drôle, vous savez. Je travaille régulièrement avec Monsieur Pack. Chaque jour, nous nous asseyons ensemble et nous parlons de prophétie. Nous parlons de toutes sortes de choses dans la parole de Dieu. et je suis très proche des sujets qui seront abordés dans les prochains sermons. C'est drôle, car même si j'entends nos conversations, que j'apprends les choses dont nous parlons et que je sais de quoi M. Pack va parler le jour du sabbat, quand j'arrive au service et que j'entends tout cela, cela me frappe presque à chaque fois d'une manière complètement différente. Je pourrais bien sûr ne pas écouter. Je ne le ferai jamais, mais je dis simplement que, théoriquement, je pourrais ne pas écouter les messages de M. Pack et dire, je n'ai pas besoin d'écouter cela, je l'ai déjà entendu toute la semaine. Je sais de quoi M. Pack va parler. J'ai aidé à prendre des notes. Eh bien, non. La raison pour laquelle vous devez être attentif, la raison pour laquelle il est utile pour moi d'être attentif et de rester concentré, c'est parce que je peux toujours en apprendre davantage. Nous pouvons toujours en apprendre davantage. C'est la leçon à retenir ici. Il en va de même pour la communication. Ne supposez jamais que vous avez déjà entendu l'histoire 3 ou 4 fois dans le passé et que vous n'avez donc pas besoin de l'entendre à nouveau. Vous pouvez simplement vous déconnecter. Maintenant, écoutez à nouveau, car vous pourriez apprendre quelque chose de nouveau. Le chapitre 9 du livre des Proverbes dit ceci, au verset 9. Proverbe 9, 9. Donne l'instruction à un homme sage, et il deviendra plus sage. Enseigne à un homme juste, et il augmentera son savoir. Si vous avez l'esprit ouvert, si vous voulez être sage, ayez l'esprit ouvert pour reconnaître que vous pouvez apprendre de n'importe où. Soyez comme une éponge. Absorbez les informations. Ne rejetez pas les informations, car, encore une fois, plus nous absorbons d'informations, plus nous sommes capables d'en recueillir, plus nous sommes capables de porter des jugements et de prendre des décisions justes. Et si quelqu'un vous donne un conseil, ne supposez pas qu'il le fait parce qu'il pense que vous ignorez tout d'un sujet. Il se peut qu'il vous donne simplement un conseil parce qu'il essaie de vous aider. Passons maintenant au chapitre 12 de Matthieu. Un dernier verset. Matthieu, chapitre 12, verset 34. Race de vipères, comment pouvez-vous, étant mauvais, dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses du trésor de son cœur. Mais je vous dis que les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors, quel type de paroles sortent de notre bouche? Quel type de communication entretenons-nous avec les autres? Si nous faisons toutes sortes de suppositions dans notre vie, au lieu de communiquer, cela peut être extrêmement, extrêmement préjudiciable pour nous. Les paroles sont importantes pour Dieu. Ce que nous disons a un impact direct et potentiellement durable sur nous-mêmes et sur nos interlocuteurs. Ainsi, plus notre communication est claire, plus nous serons clairs devant Dieu lors du jugement. C'est aussi simple que cela. Car toutes nos paroles inutiles seront prises en compte. Ou notre silence. Si nous décidons de ne pas communiquer quelque chose, notre silence sera également pris en compte. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Vous auriez pu communiquer. Vous auriez pu clarifier les choses pour les autres. Vous auriez pu communiquer davantage pour vous assurer que tout le monde comprenait vos intentions. La communication est importante. Revenons donc au verset avec lequel nous avons commencé pour conclure. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Oups, pardon, je suis dans Timothée. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. Ne présumez rien. Si nous prenons cette loi puissante cachée dans la parole de Dieu et que nous l'utilisons, que nous nous observons tout au long de notre vie, que nous surveillons nos suppositions, cela changera complètement et totalement notre façon de voir et de vivre notre vie. Ne faites aucune supposition au sujet de la doctrine. Nous ne pouvons pas être comme le monde. Ne faites aucune supposition au sujet de la doctrine. Éprouvez toutes choses. Relisez la littérature. Comme vous l'avez entendu dans la sermonnette d'aujourd'hui, leurs sites web sont un excellent outil que vous pouvez utiliser pour éprouver toutes choses. Toutes les doctrines que vous pouvez imaginer sont exposées avec une clarté cristalline dans notre littérature. Allez vérifier. Vérifiez tout. Vérifiez la doctrine. Ne faites aucune supposition sur votre caractère. Ne supposez pas que tout va bien pour vous, merci, ou que vous allez être condamné parce que vous vous jugez trop sévèrement. Ne faites aucune supposition. Vérifiez quel est votre caractère et efforcez-vous de toujours l'améliorer. Enfin, ne faites aucune supposition dans votre communication. Soyez clair, exprimez-vous et ne présumez de rien. Si nous ne présumons de rien, le verset 23 dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. »